Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la parole aux jeunes. À l'honneur aujourd'hui, la mission locale AVEC de Cergy, avec laquelle IDFM Radio a signé un partenariat pour notre plus grande joie. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des invités qui prennent le micro, ce sont des jeunes qui ont décidé de s'exprimer, de questionner, de débattre. Dans un monde où l'information circule en continu, où les réseaux sociaux s'emballent, où les intelligences artificielles peuvent créer des images, des voix, des discours plus vrais que nature, savoir décrypter, vérifier, comprendre devient un véritable enjeu démocratique. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Adi, Jolan, Yanis, Fatima. Bonjour.
Bonjour.
Accompagnés par Yann et Flora. Bonjour Yann et Flora.
Bonjour.
Alors, nos auditrices et auditeurs connaissent le principe, hein, c'est-à-dire que vous avez pensé à un sujet dont nous allons parler, que nous allons décortiquer, décrypter. Et aujourd'hui, on a un fil conducteur commun, comment le monde d'aujourd'hui influence notre génération. Parce qu'ils sont hyper connectés, exposés aux conflits internationaux, confrontés aux défis économiques, en quête d'équilibre mental et d'expression artistique. Comment les jeunes vivent-ils le monde d'aujourd'hui? Et on va commencer peut-être avec Fatima.
Merci.
Fatima, tu avais envie de parler d'hyperconnectivité et d'affect par rapport à un drame, on peut dire, que tu vis aujourd'hui à distance. Donc je te laisse nous exposer ce sujet, Fatima.
Tout d'abord, merci de donner la parole aux jeunes. Moi, je travaille sur la manière dont la guerre au Liban est vécue à distance par les Libanais et les Libanaises installés en France, surtout dans le secteur éducatif et intellectuel et artistique. Et les Libanais aujourd'hui, ou les personnes qui ont une guerre dans leur pays, vivent dans un contexte d'hyperconnectivité permanente. Ça a été le sujet de mon master de recherche au CELSA-Sorbonne Université. Et c'est un thème qui m'intéresse parce qu'il touche à quelque chose de très contemporain. La distance ne protège plus aujourd'hui. Grâce aux réseaux sociaux et aux messageries instantanées, la guerre traverse les frontières. Donc il n'y a plus de distance géographique qui nous met à côté ou nous met loin de la guerre et des violences.
Tu veux dire qu'autrefois la distance pouvait être comme une sorte de protection,
exactement, hein,
de murailles qui nous.
Voilà. Oui, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On est toujours exposé à des photos, à des vidéos, à des informations instantanées. Donc, dans mon travail, je m'intéresse particulièrement à deux plateformes essentielles pour la connexion avec le pays, qui sont WhatsApp et Instagram. WhatsApp parce que c'est l'espace du lien direct avec les proches. On y vit l'urgence, l'angoisse, l'attente et le besoin de vérifier que les gens sont vivants. Instagram, c'est un réseau pour s'informer, informer et communiquer, parce que c'est un espace public de la guerre, en fait. C'est un affective battlefield où on peut vivre de multiples émotions. On peut témoigner, on peut montrer ce qui se passe, on peut archiver dans notre compte, dans des highlights à la une et dans des posts. Ce que j'essaie de comprendre, c'est comment cette connexion permanente produit une expérience émotionnelle très particulière. On est physiquement en France, ici, mais mentalement, on est là-bas, au Liban. On vit dans un état d'hypervigilance, on scrolle sans arrêter, on dort mal, on a du mal à se concentrer. Et surtout, c'est souvent invisible par les autres, on nous demande de fonctionner normalement, alors qu'on vit une guerre intérieure en continu.
Mais si je peux m'exprimer, Fatima, quand tu dis on vit comme ça en permanence, mais c'est toi qui le décides de vivre comme ça en permanence parce que tu es hyper connectée. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de dire, voilà, j'arrête d'être connectée, je pose mon portable? Mais là, tu pourrais être vraiment déconnecté.
Mais il y a cette obligation d'être connecté. On n'est pas connecté parce que on a décidé de se connecter. Il y a une obligation qui est la guerre qui se passe au Liban
et
on a
tu des proches au Liban. Tu as l'impression que moralement, si tu n'es pas connecté, tu n'es plus avec tes proches.
Oui, et c'est pas juste mon cas parce que ma recherche, bien sûr, s'est basée sur des entretiens et des observations en présentiel et en ligne. Les entretiens étaient effectués avec des Libanais et des Libanaises qui vivent en France. Je ne dis pas diaspora parce que le mot diaspora est un peu emblématique. Mais les Libanais et les Libanaises qui vivent en France et dont que j'ai eu leur témoignage ont partagé aussi ce sentiment, ont partagé aussi ces idées que non, j'arrive pas à me déconnecter. On vivait dans le téléphone, avec le téléphone, à travers le téléphone, la guerre à distance. Et on n'arrivait pas à dormir, on n'arrivait pas à se concentrer dans les cours, ni pendant le travail, mais on est obligé à se lever, à se mettre un sourire et à dire tout se passe bien. Mais dedans, rien ne se passe bien, tout le temps.
Tout va pas si bien que ça.
Oui, on attend une notification de mort d'une personne. Par exemple, moi-même, j'ai reçu par notification de WhatsApp l'information sur la mort de mon ami avec toute sa famille dans un bombardement de raids israéliens. Donc c'est dur à expliquer, c'est un phénomène qui émerge qui prend trop de forme, qui a des effets sur beaucoup d'aspects de vie. Donc que j'essaie de faire, c'est de poser la question de comment les réseaux sociaux numériques deviennent-ils un espace où l'on vit la guerre à distance entre solidarité, mobilisation, mémoire, mais aussi épuisement et impuissance.
Oui, je comprends. Épuisement et impuissance, c'est certain dans ce cas-là, parce que il y a malgré tout la distance qui est là et qui fait que quand tu reçois une mauvaise nouvelle, eh bien, voilà, c'est terrible. Merci Fatima, merci.
Merci à vous.
Pour rebondir un petit peu sur ce que vient de nous dire Fatima, est-ce que l'un d'entre vous, Yanis, Adi ou Jolane, vous avez envie d'intervenir sur le fait que les réseaux sociaux amplifient peut-être l'angoisse?
Yanis? Oui, j'aimerais bien rajouter plein de choses. Je pense que, en fait, c'est même si on est capable de faire la part des choses et de rester hyper connecté, je pense que même en restant hyper connecté, on est tellement passif parce qu'on est capable de tellement d'actions avec cet outil-là qui nous permet de communiquer avec le monde entier. On est trop passif avec trop de pouvoir. Et je pense que ce qu'elle a dit aussi, c'est super intéressant par rapport, on se lève, on garde le sourire avec toutes ces choses qui se passent. On est obligé de faire comme si ça n'existait pas pour maintenir notre santé mentale. Ouais. Etc. Ça me fait penser à cette image un petit peu qui tournait là de ce cartoon qui s'appelait Avatar et d'un personnage qui disait il y a pas de guerre à Ba Sing Se alors qu'il y a une guerre qui détruit les deux peuples et qui cause les gens d'être dans le déni comme une dictature en gros qui fait que on est incapable de d'à la fois communiquer et survivre.
Merci Yanis. Merci. Adi et Jolane, vous avez un avis sur cette est-ce que les réseaux sociaux pour vous amplifient l'angoisse, Adi?
En vrai de vrai, je rejoins Yanis sur ce point-là. J'ai pas spécialement d'autres choses à dire.
Non, d'accord. Merci Adi. Et toi,
Jolane?
Pas d'avis particulièrement. Est-ce que vous avez le sentiment peut-être qu'on est trop exposé à l'actualité avec les réseaux sociaux? Vous qui êtes beaucoup branché sur les réseaux sociaux, Jolane?
Je pense, est-ce qu'on est trop?
Oui, trop exposé à l'actualité.
En soi, si on l'est pas, par exemple, si on parle dans les cas des guerres, si on se connecte pas justement pour s'informer, ce serait aussi faire mourir l'information. Ouais. Parce que c'est un peu nous qui la faisons circuler, juste en rien qu'en likant, on peut faire apparaître une publication sur l'autre fil d'actualité de nos proches, etc., pour que du coup les messages se propagent. Du coup, si on décide de fermer les yeux, en fait, c'est un peu toute la terre qui ferme les yeux. C'est pour ça qu'il faut. On peut pas faire grand chose à notre échelle, mais avec les réseaux, on peut un peu.
Donc finalement, il vaut mieux rester connecté.
Ouais, je pense.
Yanis.
Je pense aussi que c'est aussi une ironie fatale, le fait que on est obligé de communiquer, on est obligé de rester dans ce flux-là, mais aussi en même temps on fait partie de ces armes qu'on est utilisées dans la guerre d'information. Il y a un terme qui est très connu en ce moment c'est le mimetic warfare qui par exemple le fait d'utiliser justement, les gens qui utilisent Internet pour désensibiliser les gens. Vu que c'est un terme, vu que c'est un sujet, par exemple, qui va être discuté par tout le monde, bah, ça devient un sujet de masse et ça devient quelque chose de mondain.
Ouais.
Et c'est pas mondain et on devrait être horrifié par beaucoup de choses qui se passent et on les banalise.
C'est banalisé, oui, c'est ça. D'accord. Fatima, est-ce que tu dirais que l'hyperconnexion crée plus d'empathie ou plus de stress?
C'est les deux en fait. C'est vraiment le stress toujours. Le stress parce que, comme j'ai déjà dit, c'est
la peur de perdre quelqu'un, un être cher.
Et le peur de à chaque fois que je reçois une notification, le peur que ça va être un bombardement proche de chez nous. Je vais perdre mes parents, je vais perdre mes petits cousins. J'ai commencé à penser aux petits. Et pas juste au grand, j'ai commencé à vraiment me poser la question sur comment je peux vivre si je perdrais quelqu'un. Y a bien sûr l'empathie parce que c'est pas l'empathie qu'on choisit, c'est l'empathie qui vient vraiment avec tout ce qui se passe, avec la guerre et parce que on a la famille. Donc il y a ce côté émotionnel très fort et il y a aussi la responsabilité politique parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes dans les entretiens ont évoqué. Il y a une responsabilité d'être connecté pour savoir et pour s'informer.
Pour pas rester indifférent.
Oui, et ensuite informer les autres parce qu'il y avait aussi un biaisement dans les médias occidentaux. Il n'y avait pas une couverture médiatique vraie de ce qui se passait. Et c'est pas ma propre observation, c'est les travaux académiques qui ont montré ça. Et aussi les témoignages des personnes que j'ai interviewées et qui regardaient les médias français. Et parfois, ils faisaient des comparaisons. Et ça, pour moi, témoignait d'une chose importante qui est que avec le temps les gens deviennent de plus en plus sensibilisés à aux questions de désinformation, au comment on joue avec les informations. Il y a des gens qui m'ont parlé par exemple de la propagande et plusieurs personnes ont évoqué le terme propagande et ça nous met devant une question que comment vraiment on peut influencer à travers notre connectivité et notre partage d'informations les idées sur la guerre ou la perception de la guerre.
Oui, on en revient à ce qu'on disait un petit peu en préparant cette émission. On parlait de manipulation et donc on en est proche. On en est tout à fait proche.
Oui.
Est-ce que on peut parler de fatigue? De fatigue informationnelle.
Oui,
quelque part.
Oui, parce que avec le flux d'informations, on peut bien sûr avoir des effets psychologiques, et aussi on peut avoir des problématiques concernant la désinformation, même s'il y a des informations qui viennent du Liban, même s'il y a des vidéos, même s'il y a des photos, parfois on est contraint à la désinformation parce que on peut dire qu'une personne par exemple est morte, mais peut-être c'est pas vrai. Et par exemple au début de la guerre, j'ai mis une photo pour mon père juste parce que j'étais en pleine émotion pour ma famille et tout, en souhaitant qu'il reste bien. Et je parlais de combien je suis attachée à la terre en tant que famille agricole. Et les gens ont commencé à diffuser des fake news. Exactement. Et donc, j'ai commencé à recevoir des messages et les personnes me demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Mais en vrai, il n'y avait rien qui s'est passé.
C'était juste
moi qui étais en pleine émotion,
voilà,
qui partageait juste
l'importance
photo normale.
De faire attention aux informations. Merci Fatima. Flora, vous voulez intervenir sur ce thème que nous avons évoqué avec Fatima, enfin Flora ou Yann d'ailleurs? Non. Donc non.
C'est très intéressant d'avoir ce ressenti de l'âge qu'elle a pour le coup. Quand on préparait tout à l'heure, je disais que on avait peur, nous, de cette vision-là pour eux, en fait.
Oui.
Et ils prennent conscience quand même que ça peut être grave, que ça peut effectivement être important. Et c'est bien d'entendre ça. Après, je suis assez d'accord sur le fait que c'est aussi très anxiogène de vivre ça au quotidien et de vivre avec ça surtout.
C'est sûr. Je trouve que c'est assez lourd quand même pour vous.
Oui.
Enfin, pour toi et ta famille, Fatima, de vivre ces choses-là.
Oui.
Merci en tout cas pour ce débat vraiment bon. C'est vrai, angoissant, mais intéressant.
Merci beaucoup.
Point de vue intéressant. Merci infiniment. Alors, on avait envisagé d'en parler. On va en parler un petit peu parce que je crois qu'on a parlé de voiture tout à l'heure. Et je voudrais quand même qu'on parle de l'industrie automobile qui, en France, enfin en tout cas en Europe, connaît des aléas par rapport à l'industrie chinoise. Adi, tu veux nous en dire un mot de cette industrie européenne et chinoise? Comment tu le ressens?
Bah franchement, déjà je trouve que les Chinois ils s'importent fortement en France déjà. Ça
oui.
commence grave à venir, les voitures électriques, tout ça.
Oui.
Et
en soi, c'est une bonne chose. Et...
Bah, ah donc, Jolane, toi tu trouves que c'est une bonne chose?
Je pense que c'est une bonne chose. Enfin, si on parle d'un point de vue écologique,
ah oui.
en vrai les voitures électriques, je trouve que ce serait bien que à peu près tout le monde en ait une quoi.
Mais alors du coup ça donne, on peut dire que l'automobile européenne est menacée. Donc est-ce que ça vous fait pas craindre vous pour l'emploi plus tard puisque vous êtes en phase de trouver un emploi, donc alors il n'y a pas que de l'emploi dans l'automobile, c'est sûr, mais voilà, c'est un secteur qui va être encore plus en tension. Donc Jolane, l'écologie, oui, mais
déjà l'emploi, qu'on le voit c'est en vrai aussi. Avec déjà qu'on le voit en vrai avec l'IA, le fait que la Chine elle s'importe, ça va encore moins, enfin ça va être moins bien en tout cas pour la France.
Tu crains un peu quand même.
Ouais.
Je pense pas que ça va
Yannis,
être un frein.
Tu as un avis sur ce sujet?
Je pense que l'intelligence artificielle, on peut se réjouir qu'on a des prévisions, des pronostics qui disent que dans 2-3 ans, c'est fini parce que toutes les entreprises vont faire banqueroute.
Ah oui?
Ouais.
Moi, j'y crois pas, ça.
C'est la première fois que j'entends ça. Donc, toi, tu détiens cette information d'où?
Je pense que on est tous capables un peu de voir comment ça va se passer parce que bon, c'est le nouveau truc, c'est nouveau, mais dans les coulisses, on voit très bien que, c'est des sommes astronomiques d'argent, qui sont investies et qui sont prêtées, mais, on voit pas, si on regarde que la surface, que ça tombe dans le vide. Si on est capable d'avoir un petit peu d'analyse, de regarder à peu près comment une entreprise elle fonctionne, on voit très bien que les entreprises les plus grosses, OpenAI, Grok, etc., ça coûte tellement cher que c'est pas réaliste comme business plan.
Après, en vrai de vrai,
Adi, oui.
Moi je suis pas d'accord avec lui.
Vas-y,
dans le sens où en vrai de vrai,
on est là pour débattre.
Même si ces entreprises elles ferment, l'IA elle avance en gros. Il y a plusieurs entreprises qui commencent à même chercher l'IA, par exemple. Et je pense pas que ça va finir, en tout cas.
Est-ce que vous l'utilisez, l'IA, Adi?
Moi, personnellement, ouais.
Tu l'utilises pourquoi?
Pour m'informer. Des informations bêtes, en vrai. Hein. Par exemple, quel météo il va faire aujourd'hui?
Ah oui, rapide, d'accord. Efficace. Tu vas même plus sur une application.
Si j'y vais, mais c'est un exemple.
D'accord. Toi, Yannis?
Par principe, je l'utilise pas et je pense que on a tous eu déjà de l'interaction avec l'IA. Je pense que même au début, on se rendait pas compte. Du coup, voilà. Je pense que au fur et à mesure, on commence à se rendre compte que c'est à peu près la chose qui pourrait terminer l'humanité, que ce soit au niveau intellectualité, créativité, tout ce qui différencie l'humain de l'animal. Je pense que l'intelligence artificielle, ça nous fait régresser. Et je pense aussi que Pour revenir à la question, est-ce qu'on devrait utiliser l'IA? Je pense que on devrait s'en éloigner le plus vite possible pour éviter, parce que c'est une catastrophe et c'est une catastrophe naturelle et intellectuelle. Je pense que on se fait du mal.
Ah, mais je pense que tu as raison. D'ailleurs, des spécialistes, des médecins aujourd'hui disent que ça va empêcher le cerveau de continuer à évoluer. Alors, ouais. Avec toujours, ce qu'il faut, c'est garder le contrôle, hein. C'est ce qu'on disait à ouais. propos des écrans et des portables. Il faut garder le contrôle. Mais oui, tu as raison de souligner ça. Il faut pas se laisser emporter, dépasser par la machine, hein. C'est ce qu'on a dit c'est tout ça. À l'heure.
Je pense que le plus terrifiant, c'est que l'intelligence artificielle, on se fait duper facilement parce que c'est une intelligence qui va reproduire des patterns sans vraiment savoir ce que c'est. Et c'est ça le plus terrifiant. C'est parce que
oui, elle invente rien. Elle se nourrit des propres informations qu'on lui donne.
Et surtout que c'est marrant parce qu'il y a plusieurs années dans le passé, on disait l'intelligence artificielle un jour elle va nous dominer, etc. Je pense que c'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est que l'humain va nous dominer avec l'intelligence artificielle. Mmh. C'est ça qui fait peur. C'est ce potentiel de scénario apocalyptique que je pense qu'il va pas arriver vu que réalistiquement
toi,
parlant.
Tu penses qu'elle va se détruire
elle-même. Ouais. Elle va s'auto-détruire.
Trop d'IA va nuire à l'IA.
Ça coûte plus d'argent que SpaceX, j'ai l'impression. Oui. D'aller dans l'espace, ça coûte moins cher que l'IA, j'ai l'impression.
Merci Yanis. Annuellement. Fatima, tu voulais intervenir?
Oui, je vais joindre à ce que Yanis a dit concernant que l'IA va détruire tout, que vraiment on a déjà vécu ça dans la guerre israélo-libanaise au Liban. Il y a l'utilisation de l'IA et qui permet d'assassiner des gens juste par leur géolocalisation. Même ça, on l'a vécu à Gaza, on l'a vu à Gaza. Et je vois que là, il y a des problèmes au niveau des régulations dans le secteur militaire et sécuritaire, et aussi un problème de régulation au niveau mondial dans le secteur écologique, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients au niveau écologique et environnemental. On disait que, par exemple, ChatGPT, pour générer une réponse très très simple, a besoin de je sais pas combien de litres d'eau.
Ah oui.
Il y a des problèmes écologiques. Et il y a aussi Yanis a dit que il faut se débarrasser de l'IA, mais moi je vois par contre qu'il faut pas se débarrasser de l'IA. Il est là, ça se développe depuis plusieurs années, donc il faut savoir comment
la maîtriser,
la régulariser et la conceptualiser dans une sorte qu'elle ne devient pas une menace pour l'humanité dans le domaine militaire, ni dans le domaine environnemental, ni sur un autre secteur éducatif et intellectuel, par exemple, savoir comment vraiment mettre des règles pour gérer tout ça et pour en profiter et réduire
pour en tirer la substantifique moelle, comme on dit, mais pas être envahi par par cette IA. Ouais.
Je vois où tu veux en venir.
Yanis.
Je pense que l'IA principale dans laquelle je parle, de laquelle par rapport à laquelle je suis vraiment terrifié, c'est plus l'IA générative, l'IA qui va générer des informations entre guillemets générer parce que voilà tout est là déjà, générer de l'art, générer approximativement tout ce qui est capable d'être généré, c'est pas de la génération. Je pense que l'IA en elle-même, l'intelligence artificielle, si on décompose le mot, vraiment c'est depuis l'existence des ordinateurs. Mais je pense que ce qu'on voit très récemment avec l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on peut pas continuer à supporter.
Écoute Yanis, tu nous donnes tu me tends une perche puisque je crois que tu veux parler d'art et donc ça va nous faire le troisième sujet dont on a décidé de parler aujourd'hui, à savoir est-ce que on se pose la question, est-ce que l'art peut transformer notre façon de voir le monde?
OK,
donc, toi Yanis.
Bon, c'est ma section. Franchement, parce que j'ai envie de donner plein d'exemples, mais bon, j'ai pas tout le temps du monde. Mais je vais commencer par donner toutes les manières dans lesquelles l'art peut changer justement notre manière de voir le monde, notre manière de faire le monde aussi. Je pense que maintenant, quand on parle d'art, on parle pas d'aller voir un cadre au musée. Je pense que l'art contemporain aujourd'hui, c'est nos films hollywoodiens, c'est nos albums de musique, c'est nos jeux vidéo, nos documentaires, Même les livres, je sais qu'il y a des gens qui lisent encore des livres, bizarre.
Heureusement.
Ouais. Heureusement. Même si des fois c'est juste des mangas, je pense qu'aussi c'est comme ça qu'on
Non, mais on lit des vrais livres. Hein.
Oui, aussi.
Oui, ça
existe
encore.
Je pense que c'est de cette manière que l'art maintenant il se fait valoir, et c'est pas une mauvaise chose. Je pense que justement le fait de rendre des manières de penser, des philosophies, des manières de développer de nouveaux horizons de manière plus accessible, je pense que c'est une invention magnifique. Et je pense que il y a tellement d'aspects dans lesquels l'art aujourd'hui ça nous développe d'une manière que il y a tellement peu de choses qui peuvent nous développer. Fatima tout à l'heure elle parlait de justement aujourd'hui, politiquement parlant, le climat il est tellement
délétère,
invasif que on en devient fatigué. Je pense que l'une des seules manières qu'on a de grandir vis-à-vis de ça et d'évoluer et de le tourner à d'une manière dans laquelle on peut apprendre plein de choses. L'une des seules manières, c'est l'art. Ouais. Je pense que l'art a pas de limite. Je pense que
Alors attends Yanis, parce que je te sens extrêmement exalté et c'est bien, hein, j'adore. Mais est-ce que toi tu pratiques un art?
Je pense qu'on pratique tous à peu près de l'art. J'essaye de
non mais peut-être est-ce faire, que tu peins, est-ce que tu sculptes, est-ce que tu
j'essaye de faire de temps en temps quelques musiques. Je pense que plus électronique qu'autre chose, donc c'est pas je pense que on doit être capable de s'exprimer. Je pense que justement l'art ça aide à s'exprimer. C'est paradoxal parce que du coup pour s'exprimer on fait de l'art, et l'art justement ça aide les autres à s'exprimer. C'est un outil thérapeutique, c'est un outil qui nous aide à avoir de l'humour, pas à être le plus drôle, mais à prendre tout un peu avec de la dérision, être capable de regarder quelque chose d'une manière complètement différente, de regarder plein de choses avec un nouvel horizon, de prendre un pied en avant par rapport à sa santé mentale, être conscient de plein de choses, diversifier un petit peu la manière dont on voit les choses, parce que plus on voit d'art différent, plus on voit la vie de manière différente. Je pense que
pour toi c'est vraiment c'est un peu comme c'est le pansement de la vie là.
C'est ça. Hein, ça peut être un couteau de tranchant, mais je pense que c'est un outil d'introspection.
Merci Yanis. Il faut qu'on fasse une pause.
Ah ok.
Donc vous avez choisi un morceau de musique à nous proposer pour la pause.
Moi le morceau que j'ai proposé c'est Animal de Alex J.
On marque une pause avec Animal Alex J. On se retrouve juste après.
Thank you. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'est la parole aux jeunes avec aujourd'hui à l'honneur la mission locale avec de Sergi et en ma compagnie Adi, Jolan, Yanis et Fatima. Yanis a un discours extrêmement exalté par rapport à l'art et voilà, c'est formidable. Moi, je voulais vous demander un petit peu à tous les quatre, est-ce qu'une œuvre vous a déjà bouleversé, Fatima?
Est-ce que je peux répondre après?
Oui, tu veux réfléchir, que... je t'en prie. Jolan?
Bouleversé dans quel sens?
Eh bien, est-ce que tu, en écoutant une musique ou en voyant un tableau, un film, tu en es ressorti complètement transformé en me disant c'était trop bien, j'ai adoré, ou pas? Tu as le droit de dire non, hein, c'est pas obligé.
Non, je pense pas.
Non, pas, ça s'est jamais trouvé.
Non, en général, c'est plus la parole des gens, parce que soit leurs histoires.
Ah oui.
Ou du moins certains conseils, des témoignages, certains conseils, des épreuves de leur vie qui leur sont arrivées.
D'accord.
Qui là va plus me parler.
D'accord, très bien. Exactement. Ouais, c'est bien aussi. Adi.
Moi personnellement, je suis impacté tous les jours en vrai. Parce que sans mentir, j'écoute de la musique tous les jours. Et tous les jours,
et
ça
tu
m'impacte.
Tu es sensible, tu es bouleversé, ouais. Tu peux être bouleversé tous les jours.
Et comme tout type d'art en vrai, même par exemple les voitures.
Oui.
Je trouve que c'est un type d'art.
C'est vrai.
Et ça m'impacte fortement, en vrai. Des vrai.
C'est bien, et c'est que t'as tu as de l'émotion.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est bien. Mmh. Et toi, Yanis, alors?
J'ai envie de m'étaler, je peux m'étaler?
Vas-y, étale-toi. Okay.
Parce que j'ai envie de parler à peu près de la majorité des formes d'art qui m'inspirent. Et par exemple, les séries, qu'elles soient récentes ou vraiment vieilles, qui nous aident à justement relativiser, réfléchir et avoir de nouveaux horizons et prendre les choses avec de la dérision. L'une des séries qui m'a le plus inspiré dans ma vie, c'est Moral Aurel. C'est une série en stop motion qui est une satire de la communauté protestantiste américaine qui est remplie de secrets de polichinelle et de familles élevées dans des cycles d'alcoolisme et de négligence et on voit cet enfant naïf qui évolue dans ce cycle-là et dans cette ville remplie de gens néfastes qui avec innocence prend tous les conseils de tout le monde et c'est extrêmement bon, c'est une série qui a été diffusée sur Adult Swim, donc c'est toujours tourné à l'absurde et au très graphique des fois.
Mais alors du coup, est-ce que tu penses que c'est une série qui peut aider à mettre des mots sur ce qu'on vit?
C'est, il y a tellement de choses qui sont explorées dans Moral Aurel, par exemple le fait de pouvoir sortir justement de cette boucle infernale qui est les choses qui nous sont passées de nos parents et de nos grands-parents, les traditions qu'on peut remettre en question. Aussi, parce que je parle de cette série, je m'étale un petit peu, mais j'ai envie de donner plein d'exemples, musicalement parlant.
Il faut laisser du temps à tes...
Bien sûr.
À tes amis aussi. Hein.
Musicalement parlant... ça peut être un album de une heure, mais ça peut nous inspirer pendant toute notre vie. L'album, par exemple, Mr. Moral and the Big Stepper de Kendrick Lamar, qui est un album extrêmement introspectif sur la vie de quelqu'un qui a passé son temps à dire je dois sauver ma ville, je dois sauver mon pays, je dois sauver le monde. Et cet album qui a un message magnifique, il dit simplement je peux pas sauver le monde avant que je me sauve moi-même.
Ah,
et
oui.
c'est un album
c'est
qui aborde
un vrai message.
Qui aborde les sujets du trauma passé par les parents et de l'évolution de l'humain autour d'une société qui est développée par le racisme et la négativité, l'incapacité de prendre soin de soi-même.
Ouais, ça va très loin. Je voulais juste rebondir avec Jolan qui a réagi au titre que tu as donné, Yanis. Donc Jolan, ça te parle aussi ce titre?
Ouais, Kendrick Lamar, c'est un rappeur qui me parle pas mal quand même.
Parce que?
Parce que dans les sujets qu'il évoque, c'est j'ai l'impression que aujourd'hui, enfin c'est du rap américain, mais dans le rap français en tout cas, je trouve que dernièrement il y a moins ce truc de faire un album réfléchi sur un sujet qui peut nous faire cogiter, si on peut dire ça. Normalement la musique c'est enfin tout le monde est censé juste kiffer la musique et sans
pour on dit que la musique adoucit les mœurs.
Ouais, c'est ça, ouais. au lieu que de se casser la tête à réfléchir, essayer de comprendre le projet ou je sais pas quoi. Mais je trouve que dernièrement ça manque un peu de ça.
Ouais,
c'est
pour
ça que
moi je le rejoins dessus, je trouve. Moi je le rejoins dessus, je trouve les textes par exemple, ça se perd en France.
Ouais. Ouais.
Alors qu'aux aux États-Unis aussi, en vrai de vrai. Mais dans le fond, la France lyriquement, on est en train de perdre.
Ah oui. Ouais. Ouais, c'est les rappeurs pour vous, c'est pas des, ils donnent pas
après,
des,
y en
ils
a...
passent pas des messages.
Enfin, si, toujours. Si. En vrai, toujours. Il y a toujours une forme de message en vrai, dans le sens où c'est subjectif la musique. Tu peux ressentir comme ça et moi je ressens comme ça.
C'est vrai.
Ouais.
Et... Flora, vous vouliez intervenir, Flora.
Alors, je trouve ça très drôle parce que, avec un couple d'amis, donc, du même âge que moi, et j'ai 35 ans, enfin, 34.
Oui, vous êtes très vieille.
Peut-être par rapport à eux, un peu plus. On se disait ça, justement, qu'en France, il y avait moi, je suis fan de musique, mais qu'il y avait une grosse perte au niveau des paroles.
Ah oui.
Il y avait plus de musique à texte, comme il y a pu y avoir il y a 20 ans.
Dans les années 80, 90.
Exactement.
Ouais, 60, 70.
Et du coup, je trouve ça très drôle d'avoir ce regard-là. De votre part, parce que comme quoi, on est tous dans le même bateau et qu'on pense vraiment la même chose.
Oui, oui, malgré
la différence de génération.
Oui, c'est vrai. Fatima, alors tu as trouvé une œuvre qui t'aurait bouleversée?
En fait, moi, parce que je ne suis pas une personne qui s'inspire juste par une seule chose ou un seul côté dans la vie. Je suis multidisciplinaire dans ma recherche, dans mon mode de vie, dans ma personnalité. Donc il y a toujours et chaque jour quelque chose qui m'inspire. Mais si je vais rebondir à mon travail de recherche et dont j'ai parlé tout à l'heure, je peux dire que Les identités meurtrières, un essai de Amin Maalouf, est un travail qui m'a inspirée pendant ma recherche parce que il m'a ouvert les yeux sur les conflits qu'on peut vivre en ayant des doubles identités, en vivant entre la France et le Liban. Il y a aussi un poème du poète palestinien Mahmoud Darwish qui l'a écrit pour son ami le chercheur et professeur Edouard Saïd, aussi palestinien, et qui a vécu toute sa vie dans l'exil. Donc il a écrit un poème qui s'appelle Un message de l'exil. Donc c'est un peu ses œuvres sur l'exil et sur le fait de vivre entre deux mondes qui m'a interpellée pendant la période passée.
Donc toi, c'est ça qui te touche.
Oui.
Mais on comprend aussi que tu restes dans ce domaine du conflit et que voilà, tu es quand même très...
Oui. Il y a des œuvres françaises aussi qui m'intéressent. Je visite par exemple beaucoup de musées. J'aime bien le travail artistique. Il y a aussi mon intérêt par les chansons françaises anciennes. Oui, mais j'ai du mal à me mettre au courant de tout ce qui se passe dans la musique française
ces jours.
Il y a trop de choses. Il y a trop de chanteuses et de chanteurs qui sont pas très connus pour moi.
Oui.
Donc je me trouve un peu en difficulté à me
t'exprimer sur le sujet. Merci Fatima.
Merci.
Mais c'est l'heure de faire encore une pause et donc Fatima, c'est toi qui nous annonce la prochaine pause.
La prochaine pause sera Erkil et Anne Baladi pour la chanteuse libanaise Fayrouz.
Merci.
نسيم اللي مالي عالشجر مقابلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة يا نسيم اللي مارق عأرض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار يا نسيم اللي مارق عأرض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار خبرني إن كان بعده بيذكرني ببلدي وعالسهرة نطرني خبرني إن كان بعده بيذكرني حبيبي احكي لي انا سيني عن اهلي عن بيتي عن جار الطفولة حكاية طويلة صبي والصبي بفي الطحون خبرني حلفتك خبرني 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 يا نسيم اللي مارق عالشجر قابيلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة
IDFM 98 FM.
Merci d'être resté à l'écoute de IDFM Radio. C'est la parole aux jeunes avec aujourd'hui Adi, Jolan, Yanis et Fatima de la mission locale avec de Sergi, accompagnés par Yann et Flora. On a évoqué donc l'hyperconnectivité, l'art. Est-ce que l'art peut modifier notre perception? Et on a parlé de voitures, d'industrie chinoise. Et à présent, je propose qu'on parle d'un quatrième sujet qui a été choisi par nos jeunes présents aujourd'hui. Et il s'agit de la musique. Donc on va toujours un petit peu dans le domaine de l'art, mais plus précisément la musique. Et je crois que c'est toi, Jolane, qui avais envie de parler de musique. Donc dis-nous pourquoi.
Si on pourrait juste revenir aux questions que vous m'avez posées juste avant.
Eh bien, déjà, tout à l'heure, j'ai demandé s'il y avait une œuvre qui t'avait bouleversé. Est-ce que c'est le cas en musique?
Je pense que oui, mais je pourrais juste pas tout
citer. T'as pas de titre qui te vient,
qui me vient en tête là maintenant.
Comme ça, brutalement.
Jolane, qu'est-ce que tu penses de Kanye West?
Kanye West, tu parles. Dans quel sens?
En général. La discographie, si tu veux parler de l'homme en lui-même.
Je veux parler moi.
En fait, ce type, c'est dingue.
Allez-y. Hein.
En fait, pour moi, ce type, c'est à la limite de dire ce génie à peu près incompris. Parce qu'en fait, des fois, si on parle dans sa musique, déjà, ce qu'il fait, c'est incroyable. Il est toujours à innover, ramener des nouveaux trucs. C'est un gros... quelqu'un qui a changé un peu l'industrie de la musique. Et au niveau du personnage, en fait, la manière dont il s'exprime ou qu'il parle de certains sujets, limite, tu peux le voir comme un fou. Mais en fait, je pense que...
C'est un génie.
Ouais, c'est ça. En fait, je pense que quand t'es pas renseigné sur certains sujets, sur quoi il parle, etc., en fait, tu peux vraiment juste le voir comme un fou, parce que certaines fois, il peut parler, vas-y, ça peut être limite, on va dire. Mais je pense pas qu'il dit ça juste pour faire parler. Ou je pense qu'il y a un vrai fond. Mais
c'est quand même, pour toi, c'est un vrai artiste.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Je pense aussi qu'on peut pas être un génie et ennuyeux. Ouais, c'est obligé que ce soit fou.
Et toi, Andy, alors?
Moi, personnellement, franchement, je pense comme Jolan. Hein. Ce mec, c'est un hustler, hein, faut le dire.
Ouais.
Mais...
générationnel.
Ouais, c'est ça, hein. Vraiment. Même musicalement, il a grave apporté sa touche, tout ça.
Ouais.
Et voilà, c'est fort. Hein.
J'aimerais ajouter aussi.
Oui, Yanis.
J'ai l'impression que la majorité des rappeurs à US mainstream, ils ont été un petit peu.
Inspirés.
Même pas juste inspirés, ils ont été développés grâce à Kanye West. Ouais. Travis Scott, Future, grâce à Kanye West qu'ils sont venus sur le mainstream.
Ouais, très clairement.
Et si moi je vous parle de Jul, Aya Nakamura et Orelsan, je suis complètement dépassée.
Non, du tout.
Franchement. Je pense que je suis capable d'apprécier du rap français, même du Damso quand j'étais plus jeune, du Niska et de Orelsan. Le meilleur rappeur français que je peux vous recommander, c'est Jazzy Baz. Pas nécessairement, parce qu'on peut parler de street wesh et comme avoir un texte qui parle de choses profondes et qui est aussi écrit d'une manière tellement poétique. L'art de la multisyllabique, le fait de rimer de manière tellement fluide, que dire quoi que ce soit avec la langue qui va avec, ça devient un art.
Ah oui. Ouais,
moi personnellement, je trouve les rappeurs que vous avez cités, c'est-à-dire Jul, Aya Nakamura, tout ça, je trouve on le voit aux chiffres en vrai de vrai, ils sont archi bons. C'est juste personnellement, j'ai du mal à les écouter parce que j'ai une plus grande culture musicale que les gens en général sans vanter.
Moi, si je peux donner mon avis, alors je sais que ça. Oui, qui est probablement old school, mais vous parliez de la pauvreté des textes, et moi je suis assez impressionnée par le succès qu'ont des gens comme Jul et les textes qu'il transmet, quoi.
Moi, je suis d'accord. Après,
vous êtes d'accord avec ça?
Si je peux me permettre.
Alors, qu'est-ce qui fait que Jul a ce succès comme ça international?
Oui. Moi, je peux comprendre dans le sens où sa musique, elle peut toucher à tout le monde. Dans le sens où c'est de la zumba.
Je pense que c'est ça.
T'es dans une voiture, tu vas mettre du Jul, tout le monde va s'ambiancer en gros. Et ouais, pour moi, c'est ça.
Jul, j'ai envie d'être un peu cru. J'ai envie de dire que. C'est de la musique. Si on compare à la nourriture, j'allais dire que c'est facile à digérer.
Moi, je suis d'accord.
Si je comparais à de la nourriture, ce serait du lait pour les gens qui sont intolérants au lactose. Un peu les gens qui sont intolérants à l'art complexe, à vraiment quelque chose qui est difficile à digérer, que tu dois mettre du temps à. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un processus avec l'art.
Il y a beaucoup de monde comme ça qui ont du mal à digérer.
En fait, pour moi, personnellement, je trouve que les lyricistes, ça se perd dans le sens où les gens, bah, déjà, ils sont pas patients.
Ouais.
Et aussi, dans le sens où, bah, c'est plus facile d'écouter un son simple, entre guillemets.
Ouais,
la Zumba
ouais.
Ou
ah
quoi.
Ah oui, tu penses que c'est ça, c'est la facilité.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Un peu de paresse, alors,
ouais, c'est
quelque
ça,
part.
Gros.
Ouais.
Ouais.
Jolan, tu
moi,
penses?
Moi, si je devrais parler sur bah, l'artiste Jules, en vrai de vrai, je trouve que s'il est connu, c'est pas pour rien non plus. Donc certes, ça peut plaire à... Moi, personnellement, ça me plaît pas. Mais je comprends pourquoi ça... Je sais que... En vrai, Jules, rien qu'à son personnage, tu vois que c'est une personne simple. Mmh. Et la manière dont il raconte son vécu, des fois, ça peut parler à beaucoup de gens. Ce qui fait que sa musique est, en plus de ça, c'est une musique qui est ambiançante, donc ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Et pourquoi je qualifierais pas sa musique comme de la merde, on va dire. Bah, c'est en fait, c'est dans le rap et la musique en général, c'est trop libre. Donc ça veut dire on va pas demander à chaque artiste genre à ce que t'es là, tu m'écris des dingueries. Ça veut dire que c'est Jules, je sais ce qu'il fait. Lui, il est là plus pour mon jaillir, trop cool. Je vais écouter pour ça, je vais pas écouter pour qu'il m'écrive des trucs qui vont me faire réfléchir. Et du coup, en fait, ce qui fait que je peux aller chercher à manger partout. Là, je voudrais ça, ce type de plat, et là-bas, je voudrais ce type de plat, par exemple. Donc ça veut dire que je suis pas forcé à kiffer ce qu'il fait ou autre, quoi. Donc c'est pour ça qu'en en plus de ça, en vrai de vrai, à lui tout seul, il a créé un style. Tout le monde sait que son genre d'instru, c'est le genre marseillais, etc. Et donc ça veut dire que même s'il a pas écrit des trucs fous, il a quand même un style qu'on sait que ça vient
de
lui.
On sait que c'est Jules, c'est ça.
C'est
il est reconnaissable.
En vrai, ça, tu peux que dire que c'est fort.
C'est un peu comme finalement un peintre, on voit un tableau de Van Gogh, on sait tout de suite que c'est du
Exactement.
Van Gogh.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, en fait, c'est ça, c'est vrai. Chaque chose en son temps, en fait, j'ai l'impression, si on est à la fête de la musique ou en boîte, on va pas mettre 7 minutes de slam de Kerry James ou de Grand Corps Malade. Je pense que on se plaint beaucoup parce que on a l'impression que ça envahit beaucoup le monde musical, à l'instar de beaucoup de choses qui devraient être sur un piédestal. Sauf que c'est très compliqué aujourd'hui de voir de l'art mainstream et à la fois mainstream, à la fois bien construit et magnifique et qui nous aide à développer la société parce que c'est pas vraiment
ce
dont les gens ont envie d'avoir besoin.
Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Moi déjà ces trois artistes-là, je les mettrais pas dans le même case entre guillemets. Pour moi, Yana Kamura, ça reste très commercial.
Ouais.
Et Aurel San, après, ça reste encore pour moi autre chose et de plus travailler quand même que Jules ou Yana Kamura. Mais je pense que comme vous dites, les garçons, il en faut vraiment pour tous les coups.
Et toi, Fatima, ces artistes, ça te parle ou pas du tout?
Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Je suis pas ni le rap ni le jazz ni tout. C'est pas mon type de musique.
Oui,
donc c'est pas un type qui
musique traditionnelle.
Pas justement traditionnelle, mais elle peut être nouvelle, récente, mais qui c'est pas mon goût musical.
Ouais,
je suis plutôt classique, des mots que je puisse comprendre, qui sont pas très très vite rapidement chantés. Parce que ça me plaît pas à mes oreilles.
Je pense que les artistes vers lesquels on peut avoir le plus confiance, c'est ceux qui sont tellement diversifiés qu'on ne sait même pas par où commencer. C'est pas juste une discographie, c'est aussi une liste de films, de séries.
C'est ça, c'est tout un monde qui les détermine.
Et pour donner un exemple, Childish Gambino ou Donald Glover, qui non seulement a des albums de funk et de jazz et de rap extraordinaires, mais qui a aussi des films et une série qui s'appelle Atlanta, qui parle de racisme systémique et qui est extrêmement surréaliste et qui est extraordinaire, que je recommande à tout le monde d'ailleurs. J'aimerais bien nommer plein d'œuvres comme ça à la suite, mais je pense que voilà,
on est limité par le temps parce que voilà, les heures tournent, les minutes tournent et bon, moi j'adore votre passion, ça c'est formidable. On fait une pause et puis après je vous demande pourquoi. Puisque vous êtes en lien avec la mission locale avec de Sergi, je vais vous demander votre sentiment d'appartenance à cette mission locale. Donc, Jolan, tu nous donnes un titre de musique?
Le titre que moi j'ai donné, c'est New Gen de Slime Gallum.
Très bien, merci Jolan, et puis on se retrouve juste après.
Hold on, bitch, I'm back here again. Police got my last, which 7-6-2, what the fuck is a 10? This is 7-6-2, what the fuck is a map? I just signed me a dog and unlimited rap. And we been through the bitty with a limited shot. I do bitch when I come on that bitch getting gas. I'm a slippery slime slash. Most turned in the city, I'm the next thing hot. He scope when it drink, I don't need a red dot. When I get him, he him, nigga, go take a fat. Boy, stop all that diss and you won't get back. Drake pushing shit back like Shaq kneecap. Drake pushing shit back and these shit receding. My mirror's so tight, my legs ain't breathing. With his dick in her mouth and I give her a feed. This little bitch eat. I'm allergic to broke niggas, they got me sneezing. Drake throw him like period, pussy, he bleed. Boy, you broke as a bitch, I know that you leak. It's all in my dick, she asks why we ain't speak. Leave a dumb nigga stanky, you smell that boy reek. Big dumb booty bitch, goddamn you ass cheek. This shit call a duty, I need a kill streak. Your bitch follow, son, get him back, I know that she freak. I make music for youngers, they killing a geek. Hop in the jail, break on the E-way, we speed. Hold on, bitch, I'm back here again. Police got my last switch, I got a new gym. My little brother's gon' kill, I don't even got a bent. This is 7-6-2, what the fuck is a 10? This is 7-6-2, what the fuck is a map? I just signed me a dog and unlimited rap. And we been through the bitty with a limited shot. I do bitch when I come on that bitch getting gas. Hold on, bitch, I'm back here again. Police got my last switch, I got a new gym. My little brother's gon' kill, I don't even got a bent. This is 7-6-2, what the fuck is a 10? This is 7-6-2, what the fuck is a map? I just signed me a dog and unlimited rap. And we been through the bitty with a limited shot. I do bitch when I come on that bitch getting girl.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est toujours la parole aux jeunes sur IDFM Radio et voilà, on aborde la dernière ligne droite cette fois. Et ma question, ça va être de vous demander votre sentiment, votre réflexion sur le fait de faire partie de la mission locale avec de Cergy. Donc Fatima, je m'adresse à toi en premier.
Merci. Être à la mission locale à Cergy, c'est quelque chose qui m'a donné un sentiment de sécurité en premier lieu, parce que j'étais perdue après mon master. Surtout que j'ai pas pu sécuriser un financement pour mon doctorat, mon projet doctoral. Et j'étais toujours dans l'état d'étudiante et j'ai jamais eu l'expérience de travailler. J'ai pas même anticipé d'arriver à une année de non-études.
Oui, de projets professionnels.
Donc la mission locale m'aide à me préparer bien pour mon projet professionnel et à me donner un sentiment vraiment de sécurité en tant qu'étudiante étrangère en France.
Merci Fatima, merci et puis bonne chance pour la poursuite de tes études.
Merci.
Jolane, toi, le fait d'être à la mission locale de Cergy.
Je rejoins ce que Fatima a dit et j'aimerais aussi rajouter que aussi tu as ce sentiment aussi de soutien. Oui. Parce que par exemple, quand moi, après le bac, je ne savais plus trop quoi faire et du coup, on t'aide un peu à aller essayer de trouver ta voie parce que moi, du coup, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Du coup,
t'as des ateliers. Tu y vois plus clair aujourd'hui ?
Oui, beaucoup plus clair.
Tu as un projet ?
Oui, ingénieur son.
Ah, très bien.
Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a un peu aidé à me diriger vers faire une formation et chercher sur Internet avec les ateliers qu'on a fait à la mission locale. Et puis,
c'est en lien avec la musique qui est ta passion.
Exactement.
Bravo. Merci, Jolane.
Merci à vous.
Adi, toi, ton sentiment d'être faire partie de la mission locale de Cergy ?
Moi, en vrai, j'aime bien, dans le sens où ça me rapproche de beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Et je trouve ça bien dans le sens où j'ai pas forcément de vie professionnelle. Et ça me permet de sortir.
C'est ça, de rencontrer du monde,
ouais, c'est
de
ça.
Pas être isolé.
Ouais, c'est ça. Même être à la radio, par exemple, c'est quelque chose que j'avais jamais fait.
Tu n'avais jamais fait, ça t'a plu ?
En vrai, c'est bien. Moi, j'aime bien.
Donc, on va te revoir alors, peut-être.
J'espère.
J'espère aussi. Merci, Adi. Yanis.
J'espère qu'on va me revoir aussi. La mission
locale.
Les places
vont être chères, hein. Mais tant mieux.
La mission locale, franchement, parce que je pense que on a tous un peu développé une phobie scolaire, parce que l'école c'est 1000 personnes
c'est pas fait pour tout le monde.
Ouais, dans 3 mètres carrés. Et je pense que j'ai envie de comparer un petit peu. Si l'école, par exemple, c'est le métro, la mission locale, je prends un Uber. Et alors peut-être que le Uber il va pas m'aider à traverser la Seine, mais quand j'en sors, j'ai pas le bruit de tout le monde dans la tête et puis je suis capable de on respire quoi. Et je pense aussi que c'est très facile de se faire aider individuellement et de faire des choses de manière plus fluide, de développer des projets professionnels plus concrets. Franchement, je suis bien.
Donc voilà, c'est une belle invention, hein, l'émission locale. Ouais. Merci Yanis.
Et je gagne
Flora, Flora.
Moi, je voudrais vous remercier, du coup, de vos retours, parce que ça fait du bien à entendre et on l'entend peut-être pas assez souvent.
Oui.
Mais nous, qui aimons notre métier et bah, qui aimons travailler avec vous, vraiment merci de ce retour-là.
Merci, merci Flora d'être, d'avoir merci accompagné ces jeunes. Yann, un mot ?
Merci d'avoir, d'avoir déjà honoré votre présence, déjà. J'espère que ça va donner la possibilité à d'autres jeunes aussi
de venir,
ça
leur donner envie de venir.
Nous, c'est ce qui nous anime dans notre métier. Puis on voit le résultat comme ça, à vue d'œil, ça fait toujours plaisir. Donc si eux aussi prennent du plaisir, là, ben, c'est gagné pour nous.
Bah écoutez, je suis d'accord avec vous. Moi, je vous dis bravo, bravo à tous les quatre.
J'aimerais préciser aussi, oui, j'ai failli pas venir parce que j'ai cru que c'était une heure plus tard que ça a été. Ils sont venus me chercher en voiture.
Ah,
donc voilà, on est vraiment bien accompagnés.
Bon, bah très bien. Bah, merci Yanis de le préciser. En tout cas, vous nous avez démontré que la jeunesse ne manque ni d'idées, ni de lucidité, ni d'engagement, et qu'à l'heure où les algorithmes choisissent parfois ce que nous voyons, où les intelligences artificielles peuvent influencer, orienter, manipuler, exercer son esprit critique est un acte citoyen. Et voilà, je vous encourage à continuer à prendre la parole parce que c'est déjà agir. Et puis merci à la mission locale avec de Cergy d'accompagner ces jeunes vers l'autonomie professionnelle, mais aussi vers l'autonomie de pensée. C'est peut-être le plus important. Merci à vous et
merci.
À la prochaine fois. Merci Nicolas pour merci l'assistance Nicolas technique et puis à bientôt pour une nouvelle émission La Parole aux Jeunes.